Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Margot Le Ridon, mais aussi Mélanie Chalandon, Bertie Bourdon, Nicolas Sendé, réalisée par Anna Holbeck et mise en onde ce matin par Jean-Frédéric Salias, Juan Frederico. Suite donc de notre série consacrée aux mafias, après nous être intéressés hier à la 'Ndrangheta calabraise et avant d'aborder demain les yakuza japonais, intéressons-nous aujourd'hui aux narcotrafiquants mexicains.
Es un hecho muy lamentable el que un exsecretario de la defensa.
C'est un fait très regrettable qu'un ancien secrétaire général de la défense soit aujourd'hui arrêté et accusé de liens avec le narcotrafic.
Es una muestra inequívoca de.
Cela témoigne de façon évidente de la décomposition du régime.
De comment.
Mais aussi de la dégradation progressive de la fonction publique et de la fonction gouvernementale du pays durant la période néolibérale.
Durante el periodo neoliberal.
Durant longtemps, nous n'avons pas suffisamment tenu compte, nous n'avons pas voulu voir ce mal, cette peste qui a fait tant de mal à notre pays.
Esta peste causó tanto daño al país.
Cette voix qu'on entendait à l'instant, c'est celle du président mexicain. L'arrestation mi-octobre d'un ancien ministre de la Défense, Salvador Cienfuegos, accusé de trafic de drogue aux États-Unis, a braqué les projecteurs sur les liens de la classe politique avec les narcotrafiquants. Une arrestation sans précédent qui arrive quelques mois après celle, toujours aux États-Unis, de l'ancien responsable mexicain de la lutte contre les cartels, Genaro García Luna, également soupçonné d'avoir protégé le cartel de Sinaloa. De fait, deux ans après l'accession au pouvoir d'Andrés Manuel López Obrador, donc le président, élu sur une rhétorique anticorruption, la justice américaine semble plus active sur ces dossiers que celle du Mexique. Et si l'arrivée du Covid-19 l'explique en partie, l'apparente impuissance du nouveau président révèle surtout la complexité et la fluidité des relations entre l'État d'un côté et les groupes criminels de l'autre. En réalité systémique, une réalité systémique, que ni l'alternance politique, ni la condamnation retentissante du parrain Joaquin El Chapo Guzmán l'année dernière n'ont suffi à remettre en cause. Alors les narcotrafiquants mexicains prospèrent-ils contre l'État, malgré lui ou avec lui? Comment leurs interactions s'organisent-elles au quotidien? Et en quoi aussi peut-être l'épidémie de Covid les a-t-elle modifiées? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Luis Rivera Vélez. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes doctorant au CERI, le Centre de Recherche International, et vous êtes enseignant à l'Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine et également à Sciences Po. Avec nous également Romain Lecourt-Grandmaison. Bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes docteur en sciences politiques de l'Université Panthéon-Sorbonne et directeur du programme Mexique et Amérique centrale du think tank Noria. Alors, je le disais en introduction, mi-octobre, alors qu'il arrivait pour passer des vacances tranquillement en famille du côté de Los Angeles, les autorités fédérales américaines ont arrêté donc Salvador Cienfuegos, 72 ans, un général mexicain à la retraite maintenant, mais ancien ministre de la Défense. En 2012, il avait été choisi par le président de l'époque, Enrique Peña Nieto, pour devenir son ministre de la Défense. Et voilà qu'aujourd'hui, il fait face à plusieurs chefs d'accusation devant la justice américaine, dont celui de trafic de drogue. Il aurait protégé, selon en tout cas les procureurs américains, un dangereux cartel du pays. Alors, si cette accusation est prouvée, on aurait donc là tout simplement le plus haut gradé de l'armée mexicaine, ministre d'État, qui serait ni plus ni moins que le protecteur d'un des cartels les plus dangereux du monde. On savait évidemment qu'il y a des liens très forts entre les organisations criminelles et l'État, mais là on atteint vraiment des sommets, pour pas dire le sommet. C'est une surprise, Romain Lecourt-Grandmaison, ou pas tellement?
Alors je crois que vous l'avez très bien dit en introduction, il faut prendre le temps de déconstruire l'idée qu'il y a d'un côté l'État et de l'autre des groupes criminels. Alors ce que révèle du coup cette arrestation, qui est effectivement sans précédent, il faut pas minimiser l'importance de l'arrestation, c'est précisément ces relations permanentes qu'on appelle des relations de fait politico-criminelles qui existent entre des autorités publiques et des groupes criminels, en l'occurrence des groupes du trafic de drogue. La façon dont il faudrait les analyser, c'est sortir de l'idée selon laquelle il y a, encore une fois, une guerre ontologique, si on veut, entre les narcotrafiquants et l'État, là où on voit, et ce que révèle l'arrestation, encore une fois, et les arrestations aux États-Unis, que les relations politico-criminelles reposent sur de multiples interactions très instables, qui passent de la collaboration à l'affrontement de façon très rapide, mais qui sont fondées précisément sur cette instabilité des interactions.
Luis Rivera Vélez, est-ce que ce cas en particulier de Salvador Cienfuegos révèle une place peut-être spécifique de l'institution militaire dans le processus d'infiltration, de coopération entre les cartels et l'État? Ou est-ce que en réalité ce sont toutes les administrations, tous les corps de l'État qui subissent au fond la loi du cartel?
C'est une question très intéressante dans le sens où... Et ce qu'on avait vu, en fait, toute la campagne, tout le discours, toute la politique du gouvernement qui est arrivé en 2018, donc un bloc de Andrés Manuel López Obrador, c'était centré sur essayer de donner une place de plus en plus grande à l'armée, en fait. Du coup, suite à, je vous fais pas de l'histoire, mais suite à des processus, des décentralisations, des organisations d'autorité publique, donc d'essayer d'amener, de multiplier les organisations pour améliorer la situation dans les pays dans les années 2000, à un processus plutôt de centralisation dans les années 2010, qui n'a pas fonctionné parce que, comme vous l'avez dit, il y a eu des ministres qui étaient chargés aussi de la sécurité publique. Qui ont été inculpés, le gouvernement qui arrive en 2018, il a une politique de essayer de valoriser l'armée, en disant l'armée c'est une des organisations, une des institutions qui reste un peu plus protégée et qui semblait être forte, de protéger vis-à-vis de cas de corruption, et on le voit, le président qui arrive, il donne il lui fait faire un aéroport, il lui fait faire s'occuper des banques d'aide populaire. Or, là, ce qu'on voit, c'est que malgré cette volonté du gouvernement de essayer de valoriser l'armée, on voit qu'en fait l'armée, elle était aussi impliquée dans des rapports de collaboration avec les organisations du crime organisé. Et du coup, où il y a ces relations politico-criminelles qui sont beaucoup plus complexes.
Oui, mais ça veut dire aussi, pardon de vous couper, Luis Rivera Vélez, que si les militaires ont une place un peu à part et sont devenus au fond les protecteurs des cartels, en tout cas, en croire l'arrestation de cet homme qui était quand même le numéro un finalement de l'armée mexicaine, c'est aussi que cette armée, elle est un peu imperméable aux pressions politiques et que d'une certaine manière, elle jouit d'une autonomie qui lui permet précisément de se placer en protecteur de ces groupes criminels. Vous disiez, je ne vais pas refaire l'histoire, en même temps on peut en faire peut-être un tout petit peu, parce qu'il y a peut-être aussi là une spécificité constitutionnelle qui s'explique par des considérations historiques, qui explique la raison pour laquelle les militaires aujourd'hui jouissent d'une telle liberté d'action.
Oui, en effet, en fait, vous dites oui, il y a une certaine liberté, indépendance de l'armée, en fait, c'est que cette indépendance, elle vient de très loin, non? Il faut remonter du coup à l'histoire du Mexique, où il y a ce parti hégémonique qui gouverne pendant 70 ans, où il y a du coup ce contrôle très fort du territoire, finalement, parce que on sait que depuis très tôt, le Mexique commence à avoir des cartels de production de drogue, il commence à avoir du narcotrafic, mais il y a une Pax Mafiosa. On peut dire qu'il y a une Pax Mafiosa, c'est-à-dire que il y a une certaine tolérance des activités, ou collaboration un peu de entre les groupes criminels et les autorités publiques, tant qu'il n'y ait pas de violence. Et ce qu'on a vu en fait dans les années 2000, c'est que ce contrôle qui existait avec ce parti hégémonique, il a été bouleversé. Quand il y a l'alternance en 2000, il y a le président Fox qui arrive, il y a un désordre institutionnel qui s'est créé, et c'est à ce moment-là qu'on commence à voir les niveaux de violence augmenter. Par la suite, c'est en 2006 où, quand les niveaux de violence sont déjà assez élevés, le président Calderón, il lance une guerre contre le narcotrafic. Et c'est à ce moment-là que tous les niveaux de violence explosent aussi. Et du coup, c'est, pour revenir à cette idée de l'armée, c'est que à ce moment-là, on utilise l'armée. Donc, quand on parle de guerre, c'est, on va sortir l'armée avec une idée que, bah, l'armée était, censée s'occuper de la souveraineté nationale. Quand elle, parce que la police n'arrive pas à le faire à l'intérieur du pays, bah, du coup, l'armée sort dans les rues. Mais ce qu'on a vu, c'est que ça n'a pas marché non plus. Ouais. Et que bah, ça a provoqué des alliances entre les cartels et aussi ces groupes qui étaient maintenant dans la rue et qui sont assez instables institutionnellement.
Ouais, sachant qu'il y a des cartels qui sont plutôt en perte des vitesses, alors que d'autres sont en train de, justement, d'accroître leur influence. On va voir ça tout à l'heure. Mais justement, en s'agissant des cartels qui peut-être sont en perte d'influence, on peut penser au cartel de Sinaloa qui a été fondé par Joaquin Guzmán, dit El Chapo, considéré pendant longtemps du côté des États-Unis comme le trafiquant le plus dangereux du monde. Il avait été arrêté une première fois en 93, il s'était évadé une première fois en 2001 après avoir corrompu ses gardes, et puis après plusieurs années de cavale, il avait été à nouveau arrêté. On est en février 2014 par les autorités mexicaines. Il s'était à nouveau échappé dans des conditions absolument incroyables dans un tunnel de plus d'un kilomètre creusé sous la baignoire de sa cellule. Finalement, il est capturé pour une troisième fois par les forces spéciales mexicaines. Il est extradé aux États-Unis et depuis, il est en procès. Alors, il a fait appel, mais ça suit son cours. Et l'année dernière, c'est le fils justement de cet homme, le fils d'El Chapo, qui était arrêté dans le cadre d'une opération militaire. Tranquilo. Donc ça, c'est l'atmosphère au moment justement de l'arrestation où le fils d'El Chapo est dans ce qui ressemble à un garage. Sauf que ce qui va se passer, c'est que quelques heures plus tard, les militaires sont contraints tout simplement de le relâcher alors que des centaines d'hommes armés ont envahi les rues de la ville, menaçant de commettre un massacre de civils, menaçant notamment de s'attaquer à un complexe d'appartements qui abritait des familles, des personnels militaires locaux. Romain Lecourt, Grand Maison, que vous inspire le fait qu'il soit aujourd'hui quasiment impossible de s'en prendre au fils d'El Chapo sans risquer un massacre? Aujourd'hui, on ne peut plus arrêter les trafiquants de drogue tant les cartels sont devenus puissants et absolument incontrôlables.
Alors, pour revenir sur la question du pouvoir du pouvoir des cartels, je vais simplement nuancer un tout petit peu ce qu'on a entendu, y compris sur le rôle de l'armée et la place de la violence dans la société mexicaine. Il faut quand même savoir et se rappeler que l'armée mexicaine est utilisée par l'État mexicain depuis des décennies pour des tâches de sécurité intérieure. C'est pas du tout récent, ça a pas du tout commencé en 2006. Vous avez à la fois des opérations de contre-insurrection depuis très longtemps, qui sont à la charge de l'armée, et des opérations de lutte contre la drogue depuis au moins les années 50, qui sont également la tâche de l'armée. En l'occurrence, sur l'arrestation d'un des fils de Joaquin, Chapo Guzmán, l'année dernière, ce que ça montre, encore une fois, c'est que le pouvoir des organisations criminelles et le pouvoir de l'État, à mon sens, ne répond pas à ce jeu à somme nulle, si vous voulez. C'est-à-dire que la victoire de l'un impliquerait forcément la défaite absolue de l'autre. Ce qu'on voit dans l'arrestation qui est, si on le prend d'un point de vue stratégique ou tactique, l'opération militaire qui devait mener à l'arrestation du fils est un échec. Il n'y a aucun doute là-dessus. En revanche, on a ce jour-là, donc l'année dernière, considéré, notamment une grande partie des médias mexicains et états-uniens, que l'échec de l'arrestation marquait un tournant absolu dans les relations politico-criminelles mexicaines et l'échec de l'État, la faillite de l'État, la faiblesse de l'État. Ce qu'on voit depuis l'année dernière, c'est que ce type d'événement, de fait, ne remet absolument pas en cause ni la force de l'État, ni l'équilibre qui existe entre les organisations criminelles et l'État.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Ce qui me fait dire ça, c'est que de fait, il n'y a pas eu un tournant absolument fondamental dans la façon dont l'État mexicain fonctionne. On parle beaucoup, encore une fois, d'État faibles, d'États partiellement faillis, d'États incapables de faire face à la violence. Je crois qu'il faut vraiment le dire très clairement, l'État mexicain est tout sauf un État faible. C'est un État qui est au contraire très interventionniste, très fort. Et en l'occurrence, il faut plutôt se poser la question de savoir le rôle que joue la violence, qu'elle soit exercée par des forces publiques ou des forces privées, dans la vie quotidienne mexicaine. Et à mon sens, et c'est probablement très contre-intuitif, mais ça a été très bien documenté à la fois au Mexique et ailleurs en sciences sociales, c'est que la violence n'est pas une anomalie, la violence n'est pas un obstacle au pouvoir politique, la violence fait partie du pouvoir politique et fait partie de la façon dont l'État mexicain, les autorités mexicaines gouvernent au sein du pays. Et de fait, à partir du moment où on s'attache à montrer que justement cette violence, y compris lorsqu'elle est extrême, n'est pas un obstacle à la façon dont on gouverne le pays, on comprend pourquoi des organisations criminelles et des autorités publiques peuvent tout à fait collaborer le lundi, s'affronter le mardi, discuter le mercredi et recommencer comme ça de façon quasi quotidienne. Ouais, c'est un peu ça, à mon sens, qui se passe.
Ouais, donc au fond, la violence ne serait que la modalité d'une négociation, au fond, d'un rapport de force entre, d'un côté, les groupes criminels et, d'autre côté, l'État. Luis Rivera Vélez, peut-être une réaction sur l'arrestation donc, de ce fils d'El Chapo, qui s'appelle Ovidio, qui est surnommé El Raton, la souris, qui, visiblement, a repris une partie, en tout cas, de l'activité de son père. Et puis ensuite, pour poursuivre, je voudrais qu'on en vienne à un moment au nouveau président, enfin nouveau, il a été élu en 2018, Andrés Manuel López Obrador, mais c'est vrai avec un discours très engagé, d'abord sur la lutte contre la corruption, mais aussi avec l'ambition de rompre avec cette logique du tout répressif à l'égard des narcos, à l'égard des groupes paramilitaires, et au-delà de la rhétorique, il faudrait peut-être regarder si effectivement son arrivée a marqué ou non une rupture par rapport à ses prédécesseurs concernant cette lutte contre les narcos. Luis Rivera Vélez.
Là, il y a un peu de questions, mais qui sont liées notamment parce que cette arrestation elle fait partie de toute une politique de lutte contre les grands chefs. Non, ce qu'on a vu depuis les années 2000, c'est que on s'est focalisé un peu comme on a fait en Colombie dans les années 90 sur les grands chefs et essayer de emprisonner les grands chefs et les extrader aux États-Unis dans une idée que là-bas il y aurait de la justice. Or, ce qui s'est vu en fait, c'est que ces arrestations, elles sont très spectaculaires, elles sont très médiatisées, elles provoquent un peu de une grande, ça permet à l'État un peu de se mettre en pompe en fait et de dire que les opérations fonctionnent. Mais dans la réalité, ce qu'on a vu, c'est que c'est peut-être aussi ces arrestations qui ont provoqué une fragilisation et une balkanisation de cartels. Et qui ont été source de plus de violence. Parce que ce qu'on dit, c'est que ce qui a été un peu documenté, c'est que peut-être ces chefs intermédiaires qui prennent le pouvoir, il y a plus de disputes entre eux, ils vont pas hésiter à s'imposer par de la violence, par des mécanismes violents. Et que c'est ça aussi qui est peut-être responsable d'une augmentation de taux d'homicide, par exemple, dans le pays. Or, face à cette situation, du coup, de ces taux d'homicide qui explosent, parce qu'il faut le rappeler, c'est-à-dire que quand commence la guerre de Calderón fin 2006-2007, plutôt, on parlait de 8000 homicides par an. Au début des années 2010, c'était un peu le moment le plus important de cette guerre, on parlait de 25 000 homicides. Mais aujourd'hui, toutes les statistiques, elles laissent croire qu'on va aller jusqu'à 34 000, 35 000 homicides.
Et pour l'année 2019, qui est donc la première année complète du mandat de López Obrador, on a eu 34 582 homicides. C'est le taux le plus élevé depuis 1997.
Donc face à cette cette augmentation de la violence qui continue et face à cet échec de la politique de répression des grands cartels, il y avait pendant la campagne présidentielle ce gouvernement du coup de ce candidat AMLO qui propose de agir différemment. Notamment avec cette idée de pourquoi pas faire une amnistie, plus pour les chefs intermédiaires et plutôt les combattants aussi, c'est-à-dire les intégrants des cartels qui n'avaient pas trop de position de force. Mais même cette idée d'amnistie, elle a posé énormément de problèmes. Elle a été très critiquée dans le sens où, qu'est-ce que ça signifie en fait? Une amnistie, elle nous rappelle des mécanismes de, des transitions, de sortie de guerre, donc de justice transitionnelle où il faut aussi du coup, souvent il y a deux camps, il y a deux parties. Donc cette amnistie, elle induit aussi que l'État doit prendre responsabilité d'une grosse partie de la violence, c'est qu'il a refusé de faire. Et c'est là où, en fait, on critique peut-être le gouvernement d'aujourd'hui en disant, certes, il y a une rhétorique pour essayer de qui amenait tout un discours nouveau sur comment est-ce qu'il fallait rompre avec le crime organisé, avec la corruption et l'insécurité. Mais en même temps, dans la pratique, cette amnistie, elle n'est jamais arrivée. On a vu plutôt que on a créé une nouvelle force armée qui s'appelle la Guardia Nationale, donc une gendarmerie, une espèce de gendarmerie, qui est très liée à l'armée et qui est vue un peu elle a été vue comme peut-être une bonne chose, dans le sens où c'était encore une façon de centraliser, d'organiser plus l'action étatique, mais en même temps, c'est ce qu'on voit, c'est que il y a au sein de l'armée, il y avait beaucoup de corruption, il y avait beaucoup de liens en fait aussi avec les cartels. Donc voilà, c'est juste pour finir, c'est de dire que certes dans la rhétorique il y avait des idées un peu innovantes, mais en fait dans la pratique peut-être que il n'y a pas eu de grands changements pour l'instant.
Romain Lecourt, Grand Maison, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas justement eu de grands changements? Est-ce que c'est parce que en réalité on était en présence de que de communication politique de la part du président Robert Obrador et que il était impossible de mettre en place cette amnistie, précisément parce que il ne s'agit pas d'une guerre, mais d'articulation entre plusieurs entités d'un côté l'État, de l'autre côté des réseaux criminels, mais qu'en réalité on est plus dans une forme de collaboration que dans une forme de guerre, malgré ce qu'on dit. Est-ce que c'est parce qu'il y avait des oppositions politiques à cette amnistie? Comment vous voyez les choses?
Alors, je crois que vous avez tout à fait raison de le présenter comme ça. C'est probablement d'une part une tâche qui est quand même complexe, très dure. On peut pas, je pense, trouver une solution à ce qui se passe au Mexique aujourd'hui de façon rapide et simple. Deuxièmement, ça part effectivement de cette conformation d'un système au sein duquel, encore une fois, les relations politico-criminelles et la violence ne cherchent pas à mettre en déroute le système politique, mais bien à s'ouvrir un espace de négociation à l'intérieur du jeu politique. Et ça, c'est valable pour des acteurs criminels comme pour des acteurs publics. Et si on parle de l'armée, ça va avec votre dernière remarque, il y a clairement des rapports de force qui sont complexes, qui sont changeants, à l'intérieur de l'État lui-même, entre l'armée en tant qu'institution et le gouvernement civil mexicain. Et ce qui est compliqué à l'intérieur de ces relations internes à l'État, c'est d'être capable d'évaluer de façon précise, claire, quels sont ces rapports de force. C'est honnêtement un angle mort, on pourrait dire, ou pas forcément un angle mort, mais quelque chose qui est compliqué à détricoter à l'intérieur du système politique mexicain. On voit de l'extérieur, en tout cas, que la place de l'armée, l'influence de l'armée à l'intérieur du système politique, des prises de décision politiques, est grandissante. Il y a une influence de l'armée qui est effectivement très importante, mais c'est compliqué, à mon sens, de savoir aujourd'hui quels sont les rapports de force précis qui existent entre le président de la République et l'armée en tant qu'institution. Ce qui est certain, c'est que la place de l'armée dans la vie politique mexicaine est aujourd'hui forte, grandissante. C'est pas forcément inédit, hein. On peut revenir à différents épisodes de l'histoire mexicaine plus ou moins récente pour retrouver des exemples de cela. Mais il y a effectivement une influence qui est forte aujourd'hui. Est-ce que ça part du principe que le président est capable de négocier de fait une place importante à l'armée pour être libre de gouverner selon d'autres préceptes sur d'autres sujets? Peut-être. Est-ce qu'il est en position de faiblesse face à l'armée? peut-être également, c'est assez compliqué de le savoir, de le savoir aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que ces rapports de force sont très importants. Les rapports de force à l'intérieur de l'État sont très importants, et ils sont très importants, y compris parce qu'encore une fois, les relations politico-criminelles, il faut les comprendre comme des sources de pouvoir à l'intérieur du Mexique, et que l'armée, a priori, n'a pas envie d'être évincée de la lutte contre le narcotrafic, de la lutte contre le trafic de drogue, y compris parce qu'elle apporte une manne financière absolument colossale à l'armée en tant qu'institution. Ça passe notamment par la coopération militaire avec les États-Unis. C'est l'accès à des budgets, c'est l'accès à une manne financière qui est liée à la corruption. C'est un peu ce qu'on dit depuis le début de l'émission. Et que cette participation à la guerre contre le narcotrafic et la guerre contre le narcotrafic elle-même est un business quand même très rentable pour énormément d'acteurs au sein du Mexique, et que la disparition de cette manne reviendrait quand même à une vraie perte de vitesse pour, encore une fois, énormément d'acteurs, à la fois publics et privés.
Donc il y a une question économique derrière tout cela.
Absolument.
Il y a évidemment des évolutions dans les rapports de force à l'intérieur même des États, mais il y a aussi des évolutions dans le paysage des cartels. On parlait tout à l'heure du cartel de Sinaloa fondé par El Chapo. Aujourd'hui, c'est un autre cartel qui est en train de prendre de plus en plus d'influence, c'est celui de Jalisco Nouvelle Génération, qui a été fondé par Nemesio Oseguera Cervantes, dit El Mencho. Il a fait fortune dans le trafic de drogue, il a construit sa réputation en s'en prenant d'abord au groupe Rivo, mais aussi à l'État mexicain. Sa garde rapprochée avait même abattu en 2015 un hélicoptère de l'armée mexicaine à la stupéfaction générale, faisant 9 morts parmi les militaires. Mais maintenant, on fait aussi du côté de ce cartel dans le social, d'autant qu'on a évidemment une crise sanitaire profonde, et donc on distribue aux populations des vivres, ce qui n'est pas forcément pour plaire aux responsables politiques locaux.
Merci Monsieur Mencho pour ces provisions que vous nous avez données ici à Tecalitlan.
Je dis aux gens, ne vous faites pas avoir par cet écran de fumée. Parce que c'est un écran de fumée. Tu ne peux pas donner de la nourriture aux habitants et en même temps tirer sur des enfants, sur des familles, empoisonner les gens comme ils le font. Il y a un vide que doivent combler les autorités. Il y a un vide créé par les autorités. Et qui remplit ce vide ? Les groupes criminels. Ils se sont rapprochés des gens et les gens vont les recevoir. Ils ont besoin qu'on les aide, qu'on leur donne à manger.
Voilà, témoignage d'une députée du Michoacán qui dénonçait le fait que les narcotrafiquants donc distribuent de la nourriture aux pauvres, extrait d'un reportage d'Arte qui avait été diffusé en juin dernier. On distribue de la nourriture, mais on fait même plus que cela, parce que récemment, El Mancho justement s'est fait connaître pour avoir construit un hôpital avec salle d'accouchement, bloc opératoire, s'il vous plaît, enfin quelque chose de visiblement très bien fait. On n'avait jamais vu Luis Rivera Vélez, un cartel, se lancer dans un projet social, sanitaire de ce genre. Comment est-ce qu'il faut l'interpréter ? Est-ce qu'on a là une nouvelle étape ? Est-ce que on est en train, du côté des cartels, de se substituer d'une certaine manière à l'État, justement en prenant l'espace vide qui est là ? Est-ce qu'il s'agit d'abord et avant tout de s'assurer le soutien de la population ? Enfin, comment vous voyez les choses, vous, Luis Rivera Vélez ? Vous voyez une évolution, justement, dans cette implication dans les questions sociales ? Luis Rivera Vélez, on ne vous entend plus. Alors je vais me tourner vers Romain Lecourt, Grand Maison. Même question, peut-être une réaction autour de ce que vous venez d'entendre. Et cette question de savoir si on a là aujourd'hui une nouvelle génération peut-être de narcotrafiquants qui ne font pas seulement dans le trafic de drogue, mais qui font aussi dans le social, avec peut-être l'objectif de se substituer à l'État. Romain Lecourt, Grand Maison.
Alors, ce sont des questions qui sont primordiales. En l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est que ce genre de pratiques ne sont pas nouvelles. C'est assez ancien. Et d'ailleurs, je pense que si vous en avez parlé hier à propos de la mafia en Italie, vous avez depuis toujours cette idée que le mafieux est bon avec la main gauche et dur avec la main droite.
Enfin, construire un hôpital, Romain Lecourt, Grand Maison, ouais. C'était du jamais vu, ça.
Alors oui, alors il y a effectivement certaines pratiques qui sont nouvelles. Alors à mon sens, ce qui est vraiment nouveau ou ce qui évolue très vite, c'est la capacité de communication de ces groupes et la capacité de mise en scène de leur bienfaisance par des vidéos, par de l'audio, qui sont souvent d'ailleurs très bien produits, pour mettre en scène encore une fois cet accès aux populations et le sauvetage de certaines populations. En revanche, encore une fois, ça va dans cette multitude de relations qu'il y a au niveau local entre ces organisations et l'État. Ce qui est intéressant, et pour le coup, vous avez fait passer un extrait qui a été enregistré dans le Michoacán. Moi, j'ai fait ma thèse sur le Michoacán, j'ai fait du terrain dans le Michoacán, et ce qu'on voit au niveau local, encore une fois, c'est quand vous êtes sur le terrain, ces organisations criminelles sont dans le même territoire, interagissent au sein du même territoire avec les autorités publiques. Et on peut imaginer que la construction de cet hôpital, dont par ailleurs je pense qu'il faudrait quand même aller vérifier un jour la réalité d'opération, c'est quand même assez simple au Mexique d'annoncer que vous construisez un hôpital. Je serais quand même assez curieux d'aller visiter cet hôpital,
vous avez
voir ce qu'il en est. Mais ce qui est sûr, c'est que cette façon de se diriger à la population fait partie effectivement de cette capacité d'autorité locale. Alors on parle de cartel aujourd'hui, mais au Mexique il y a énormément d'autorités non publiques qui sont capables de venir en aide aux populations. Ça peut être un patron politique local, ça peut être un entrepreneur qui va mettre en scène, encore une fois, sa philanthropie, sa bienfaisance. En l'occurrence, ce sont effectivement des acteurs criminels qui le font ici. Dans le commentaire que faisait la députée, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle dit les cartels vous donnent à manger d'une main et vous répriment de l'autre. Quand on est sur le terrain, ce que disent les populations mexicaines, c'est que l'armée ou la police se comportent exactement de la même façon. C'est-à-dire que l'armée vous distribue des vivres un jour et vient vous réprimer le lendemain. Et encore une fois, ce que montre ce type de pratique, malheureusement, c'est l'utilisation de la bienfaisance et de la violence pour asseoir un pouvoir politique à l'intérieur du jeu politique mexicain. Et en revanche, vous avez raison de le dire, la capacité de communication de ces organisations est probablement décuplée. Ils font usage des réseaux sociaux, ils font usage de la production vidéo pour mettre en scène ce type d'aide, mais qui souvent, pour être tout à fait honnête, ne vont pas beaucoup plus loin que cette mise en scène assez ponctuelle.
Oui, c'est vrai, vous avez raison. Il faudrait voir la réalité derrière cette annonce. Il n'empêche que, de toute façon, il y a la communication, même s'il n'y a pas forcément derrière l'établissement et les moyens sanitaires. En tout cas, la communication, elle est là. Et donc, il faut pouvoir aussi y répondre. Luis Rivera Vélez, on vous a retrouvé, je pense. Quelle est justement la réponse du président mexicain sur le volet sanitaire? Parce qu'on voit bien que l'enjeu, il est aussi sur le plan sanitaire et que la rivalité entre les cartels et l'État, elle se joue dans ce domaine-là aussi. Qu'est-ce qui est mis en place par AMLO? C'est quoi son programme d'urgence sociale depuis qu'il est arrivé au pouvoir et comment le déploie-t-il?
C'est assez intéressant de voir que AMLO, il a pris conscience, en fait, c'est peut-être tout son côté social et tout sa politique de gauche qui a essayé de mettre en valeur le fait que l'économie au Mexique est très informelle, il n'y a pas un État-providence fort et que du coup, il fallait pas nécessairement enfermer la population d'une façon très stricte parce que ça allait affecter toute l'économie. Cependant, ce qu'on a vu, c'est que de toute façon, il fallait donc du coup toutes les mesures de confinement qui étaient prônées dans d'autres pays très très fortement, elles sont essayées d'être évitées. Mais ce qu'on a vu au Mexique, c'est que quand même les gens se sont enfermés, ils sont dû s'isoler socialement et que de toute façon, le nombre de cas au Mexique a très fortement augmenté et qu'il y a eu beaucoup de morts liées au coronavirus. Donc face à cette crise, la réponse sanitaire, c'est essayer de répondre à la crise, d'essayer de mettre en place des systèmes de soins et des systèmes d'aide plus stables. Mais c'est que, et c'est, je fais le lien avec la question que vous m'avez posée tout à l'heure et à laquelle je n'ai pas pu répondre, sur quel est le rôle des cartels. Et c'est que, en fait, la crise économique, elle a frappé l'État, la crise sanitaire et la crise économique par la suite, elles ont frappé l'État d'une façon très, très importante, là où les cartels n'ont pas été frappés. C'est-à-dire que les finances des cartels leur ont permis de déployer cette communication spectaculaire sur l'aide vis-à-vis de la population, là où l'État il était un peu contraint de le faire. Et du coup, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est, comme l'a très bien dit Romain, je pense, quelque chose d'assez spectaculaire, où on ne sait pas où on va, mais qui pose la question de est-ce qu'il n'y aurait pas une volonté des cartels de prendre un peu plus de pouvoir. De pouvoir politique, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et c'est là, est-ce que les cartels ne viendraient pas, n'auraient pas une intention aujourd'hui, notamment certains cartels comme celui des Jalisco Nueva Generación, qui commencent à avoir une assise un peu plus nationale, alors que avant les cartels étaient plutôt concentrés dans certaines régions, et de là à dire, est-ce qu'il n'y aurait pas du coup une volonté de certains cartels de reprendre un peu plus de pouvoir au niveau national, avec éventuellement la possibilité d'une participation au pouvoir.
Attendez, mais vous êtes en train de me dire que le fameux El Mencho dont on parle depuis tout à l'heure, il pourrait finalement avoir des responsabilités politiques demain et que peut-être même est-ce son ambition ?
Mais je ne sais pas. Oui. Ça, je ne le sais pas. C'est une hypothèse. C'est que, du coup, le changement de stratégie vis-à-vis de la communication et le changement de la participation dans la société, ça fait aussi que on se pose ces questions-là. À quoi ça sert, en fait, cette assise sociale que les cartels sont en train de construire.
Oui, bien sûr. Oui. Alors, justement, Romain Lecourt, Grand Maison, qu'est-ce que vous en pensez de cela? Au fond, est-ce que cet activisme social, cette communication outrancière des cartels, elle aurait pour objectif de transformer ces organisations en force politique? Alors, on a des exemples par le passé. On a Pablo Escobar, à la tête du cartel de Medellín. Il avait essayé, lui, de se lancer en politique. Il était devenu délégué suppléant à la Chambre des représentants de Colombie. Mais est-ce que, du côté du Mexique, ça vous semble possible? Parce qu'au Mexique, on dit aussi que quand un narco commence à se faire connaître, il sent la mort. Je ne connais pas l'expression exacte, mais c'est exactement cela. Vous pensez qu'il y a peut-être cette ambition désormais, du point de vue chez les cartels?
Alors, moi, c'est difficile de donner une réponse absolument définitive, mais je ne pense pas. Honnêtement, je pense que cette participation à la vie politique, d'une part, on l'a vu au sein de plusieurs groupes criminels et groupes trafiquants durant les 15 dernières années. Je reviens notamment dans la région du Michoacán, où vous aviez deux groupes criminels très importants qui s'appelaient la famille du Michoacán et les Chevaliers Templiers, entre 2006 et 2013, qui, à mon sens, ont été beaucoup plus capables d'organiser la vie sociale que le fait aujourd'hui Jalisco Nouvelle Génération. La façon dont fonctionne, a priori, Jalisco Nouvelle Génération, c'est assez novateur, c'est par un système de franchise, si vous voulez. C'est-à-dire que des groupes locaux, qu'ils soient tout petits ou un peu plus importants, prennent le nom, prennent l'étiquette, si vous voulez, de Jalisco Nouvelle Génération et se mettent à opérer avec cette marque au niveau local. Ce qui donne, à mon sens, une forme d'illusion de présence nationale, mais qui ne passe absolument pas par des pratiques récurrentes et organisées de contrôle social à l'échelle nationale. Ce qu'on voit sur le terrain, c'est des accords en général ultra localisés entre des groupes plus ou moins petits, et quand je dis plus ou moins petits, c'est littéralement parfois des groupes de 20-30 personnes qui sont capables, à l'échelle encore une fois très locale, notamment au niveau rural, d'être en contact avec des autorités publiques. Là, ce qui se joue, c'est pas la prise de pouvoir d'un groupe criminel sur le système politique. De fait, le système politique s'en sort plutôt bien, en dépit de la violence. Encore une fois, je suis pas du tout en train de nier les niveaux de violence. Je dis simplement que ces niveaux de violence n'empêchent absolument pas le pouvoir politique au Mexique. Ils n'empêchent en l'occurrence pas non plus la tenue des élections. Il va y avoir des élections en juin qui vont être absolument cruciales pour le pays. Ce qu'on voit à ce moment-là, encore une fois, c'est la collaboration et les affrontements entre des groupes criminels et les autorités politiques pour la conservation ou l'obtention du pouvoir politique. Et donc, vous avez encore une fois ce monde ni blanc ni noir, en général très gris, dans lequel des personnages sont capables, encore une fois, de se servir de la violence pour se maintenir au pouvoir ou obtenir le pouvoir. Et ce qu'on voit au niveau local, d'autre part, et qui me semble très important, c'est que ce qu'on appelle de loin les narcos ou les narcotrafiquants, ce sont des gens qui sont originaires des mêmes régions dans lesquelles ils opèrent. Et ce que vous avez quand même assez souvent, c'est par exemple l'autorité municipale, le maire, si vous voulez, ce qu'on appelle au Mexique le président municipal, peut-être le frère du leader du groupe criminel local. Quand le président municipal est le frère du groupe, du leader du groupe criminel local, on peut pas parler d'un affrontement ou d'une séparation entre le pouvoir politique et le pouvoir criminel. C'est une forme de collaboration, encore une fois, entre des groupes publics et privés qui s'entendent souvent de façon courte, et vous l'avez dit, en général, le pouvoir politique des acteurs criminels au Mexique est quand même assez court, et plus vous vous mettez en valeur, plus vous vous mettez en danger, et plus vous poussez, en général, l'État, en l'occurrence, à réagir de façon encore plus violente et à chercher à vous faire tomber.
Ouais, donc une grande fluidité en réalité entre tous ces mondes qui, d'une certaine manière, sont le même monde. En tout cas, violence, absolument, il y a, et les femmes sont souvent en première ligne. 2018, les autorités ont recensé 3580 féminicides. En 15 ans, leur nombre a progressé de 85% ces dernières années. La militarisation de l'État a causé une explosion des violations des droits de l'homme, et particulièrement aux dépens des femmes, et la corruption systémique à aggraver la défaillance du système judiciaire. On va parler de cette question du féminicide.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Ni una más, ni una más,
ni una asesinada más, ni una más.
En México, el 99% de los crímenes.
Au Mexique, les crimes contre les femmes restent impunis à 99%. Les autorités ne font rien pour protéger les femmes. C'est une époque où nous, femmes, sommes seules, abandonnées par un État qui nous a laissé tomber et qui a fait preuve d'un mépris et d'une indolence sans précédent en violant clairement les lois et les traités internationaux. Comme vous le voyez ici aujourd'hui, la présence de jeunes femmes donne le ton. Elles sont à l'avant-garde. Elles montrent de toute leur force que nous en avons assez et que rien ne nous arrêtera. Nous allons faire tout ce qu'il faut pour sauver des vies.
Voilà, extrait d'un documentaire de Brut qui avait été publié en avril dernier. Bonjour Marie-Hélène Lapalu.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes doctorante en sociologie à l'Université Lumière Lyon 2, une spécialiste des espaces de résistance contre les féminicides au Mexique. On les entendait justement, ces femmes crier leur colère, dénoncer ces féminicides. On a parlé tout à l'heure de l'arrivée de López Obrador et de ce que cela avait changé ou non dans la réponse dans la lutte contre les cartels. S'agissant de ces féminicides, de la judiciarisation de ces féminicides qui pose encore énormément de questions, parce qu'il y a encore aujourd'hui très peu en réalité de féminicides qui sont traduits par la justice. Est-ce que son arrivée au pouvoir a changé un peu les choses?
Non, pas vraiment. Bon, vous l'avez dit tout à l'heure, à chaque présidence, on assiste un petit peu à des démonstrations d'affichage en matière de droits humains et de droits des femmes, mais qui en fait ne sont pas suivies des faits. Donc les activistes sur le terrain ont l'habitude de parler d'une politique de simulation de l'État mexicain. Donc il faut rappeler que l'État mexicain a été condamné en 2009 par la Cour interaméricaine suite aux crimes commis à Ciudad Juárez contre plusieurs femmes. Donc ça a été une reconnaissance historique de l'implication de l'État mexicain dans ces meurtres. L'État a été sommé de réagir, notamment par la pénalisation du féminicide comme délit depuis 2011. Mais une modification du code pénal n'est rien s'il n'y a pas de protocole policier et judiciaire mis en place. s'il n'y a pas de formation des fonctionnaires et des agents de l'État.
Oui, d'autant qu'en plus, visiblement, Obrador a souhaité revenir sur ce terme de féminicide qu'il voulait retirer du code pénal. Ça a créé une énorme polémique en février dernier, mais on ne comprend pas bien d'ailleurs les arguments du président à l'époque.
Alors, il faut revenir peut-être sur la spécificité de la définition du féminicide au Mexique. Le féminicide, c'est un ensemble de meurtres commis contre des femmes par des hommes parce qu'elles sont femmes et, dans la définition mexicaine, en plus, parce qu'il y a impunité institutionnelle, impunité au niveau de l'État. Donc, c'est vrai que c'est extrêmement gênant pour l'État, pour la présidence elle-même, hein, d'accepter cette définition-là.
Si on regarde un peu les choses, Marie-Hélène Lapalu, on a une inertie des autorités qui est très forte. On a beaucoup de mal à mobiliser la police, la justice dans ces cas de féminicide. Mais au fond, ces femmes, pourquoi sont-elles tuées? Est-ce que on a le plus souvent affaire à des crimes sexuels? Est-ce que ce sont des crimes passionnels? Je mets évidemment le terme entre guillemets, mais disons au sens où il interviendrait suite à une dispute au sein d'un couple. Est-ce que ce sont aussi en partie des crimes liés précisément au narcotrafic, au crime organisé?
Alors, il y a plusieurs choses sous le terme finalement de féminicide au Mexique. Ouais. C'est vrai que en 2020, Maria Salguero, qui est une activiste et qui a fait le recensement des assassinats de femmes, puisque l'Institut national des statistiques apparemment n'est pas en mesure de donner les véritables chiffres, elle rapporte que 63% actuellement des féminicides sont commis dans le contexte du crime organisé. Donc c'est un gros changement aussi, puisque le gros des féminicides a lieu dans les foyers, hein, dans le domaine privé. Et là, depuis quelques années, on commence à voir le basculement, c'est-à-dire que les crimes commis dans la sphère publique débordent, entre guillemets, si je peux utiliser ce verbe. Les femmes, si vous voulez, comme en temps de guerre, hein, sont considérées comme des butins par les cartels de drogue, et la violence contre les femmes est utilisée comme une arme de règlement de compte entre les gangs. Donc on assiste vraiment, notamment dans l'État du Mexique, hein, qui jouxte la capitale, à ces règlements de compte. Les corps des femmes sont mutilés, sont torturés, exposés dans l'espace public. Et les chercheuses montrent, hein, que c'est devenu un langage pour les gangs. Hein. On a même parfois des messages écrits sur les corps qui revendiquent la puissance de telle ou telle organisation criminelle.
Oui, d'ailleurs, c'est absolument frappant au Mexique, c'est qu'effectivement, on a ces femmes au corps mutilé, mais on retrouve, il n'est pas rare de retrouver en tout cas dans les médias, des photos précisément de ces corps mutilés. D'ailleurs, on se demande comment elles arrivent là, mais on comprend effectivement ce que vous nous dites, c'est-à-dire qu'il y a d'une certaine manière une manière particulière d'appréhender la violence à l'égard des femmes de point de vue des narcos. Et par ailleurs, ce spectacle de la violence, on imagine qu'il participe aussi en retour à une forme de banalisation de la violence envers les femmes, au sens où, au bout d'un moment, l'opinion s'habitue à tout cela, à voir ses corps mutilés en une des journaux.
Oui, c'est sûr, c'est évident. Bon, on va dire que c'est devenu culturel au Mexique. Alors, à la fois, j'entendais tout à l'heure sur la narcoculture qui est éminemment misogyne, hein, que ce soit dans les faits musicaux, dans les relations aux autres. Hein, c'est une culture qui est imprégnée par la violence de genre. Les femmes sont objets sur lesquels la sexualité et la violence peuvent s'exercer en toute impunité. Mais effectivement, il y a aussi une certaine, on en parlait, une violence institutionnelle, un laisser-faire, une indifférence par rapport à la violence contre les femmes, qui fait que, vous le montriez tout à l'heure, il y a un sentiment d'abandon.
Et on essaie justement du côté des courants féministes, des mouvements féministes, Marie-Hélène Lapalu, d'imaginer des nouvelles formes justement d'intervention pour dénoncer ces violences. Et il y a notamment un phénomène auquel vous êtes intéressé en particulier qui s'appelle le scratché. Je ne sais pas si je prononce correctement. Vous nous expliquez en quelques mots de quoi il s'agit et comment est-ce qu'il est utilisé précisément pour dénoncer la violence à l'égard des femmes?
Alors, pour s'adapter un petit peu on va dire, vous avez parlé tout à l'heure, hein, de la violence comme mode de gouvernance et puis de la militarisation de la sécurité publique. Donc, il faut inventer des nouveaux modes d'activisme pour ne pas non plus être enlevé, parce qu'on en est là. Hein, au Mexique, on peut être enlevé lors d'une manifestation. Donc, le scratch, ce sont en fait des petits groupes d'activistes féministes qui dénoncent dans les lieux publics les auteurs de féminicides. Alors, les coupables directs, et qui n'auraient pas été punis, et des coupables indirects, c'est-à-dire des responsables politiques, des personnalités publiques. Donc c'est une sorte d'humiliation publique. Mmh. Hein, leur slogan, c'est « il faut changer la honte de camp ». Voilà, alors c'est quelque chose qui est... où il faut, qui requiert une grande organisation, puisque voilà, quand on fait un scratch, il faut tout prévoir, regarder les issues possibles dans la rue pour ne pas être arrêté. Enfin, voilà, c'est quelque chose de très organisé.
Peut-être une toute petite réaction, Luis Rivera Vélez et Romain Lecourt Grand Maison, on arrive presque au terme de cette émission. Alors je vous donne quelques secondes à l'un et à l'autre en guise de conclusion. Luis Rivera Vélez.
Oui, non, je voulais juste revenir sur cette idée de banalisation de la violence qu'on voit au Mexique. Je ne pense pas que ce soit vrai. D'accord. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il y a eu beaucoup de mobilisation sociale, que ce soit de la part des populations les plus vulnérables, les plus pauvres, mais aussi des entrepreneurs, des grands entrepreneurs, et de l'élite économique du pays, une mobilisation très forte pour dire, fait, ça suffit, et il faut changer, quoi. Là où l'exemple des femmes, les mobilisations des femmes, en fait, au Mexique, les dernières années ont été très très importantes. Ouais. Et elles ont mis sur l'agenda latino-américaine cette question de il faut arrêter la violence contre les femmes. Donc cette idée de on s'habitue à la violence, je
vous êtes pas d'accord. Ouais.
Ouais, non, je crois pas.
Romain Lecourt Grand Maison, vous êtes d'accord pour ne pas être d'accord? 30 secondes.
Ouais, alors moi je vais faire une réponse de Suisse à nouveau. Je suis tout à fait d'accord avec l'argument du spectacle de la violence. Je sais pas s'il y a une banalisation de la violence, mais ce qui est sûr, c'est que la place du spectacle de la violence est chaque jour majeure dans la société mexicaine, mais aussi dans la société mondiale. De fait, les narcos font vendre. Il y a des séries, il y a des bouquins, il y a toutes sortes de modalités culturelles qui se créent autour de ça. Et je suis assez d'accord avec le commentaire que faisait Marie-Hélène là-dessus, c'est que la place de la femme dans ce spectacle de la violence est devenue absolument centrale pour le pire. C'est-à-dire que les pratiques de violence sont chaque jour plus extrêmes, elles sont toujours plus mises en scène, elles sont toujours plus visibles aussi, et que de ce point de vue-là, il n'y a pas forcément une banalisation, mais il y a une forme d'habitude à la place et à la présence de spectacles de violence dans la quotidianité mexicaine, qui passe notamment, comme vous l'avez dit, par des photos, des vidéos absolument atroces. Et de fait, on en voit tous les jours, et je pense que on ne le banalise pas, mais on s'y habitue de façon tout à fait évidente.
Merci beaucoup en tout cas à tous les trois, Marie-Hélène Lapalu, d'avoir été avec nous ce matin, Luis Rivera Vélez et vous, Romain Lecourt Grand Maison. On poursuivra notre série consacrée aux mafias demain, on s'intéressera aux Yakuza. Mais tout de suite, c'est Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice, à distance. Bonjour également Florian. Brice. Bonjour, merci d'être avec nous Brice. Qu'entend-on par active measures? Voilà la question que vous vous posez ce matin.
Dans le langage de l'espionnage, il s'agit des campagnes de désinformation. Selon Thomas Reed, qui vient de publier un ouvrage consacré à ce sujet, sous-titré « The Secret History of Disinformation and Political Warfare », cela ne date pas d'hier. La guerre froide en a connu des quantités. Reed a notamment retrouvé et interviewé Ladislav Bittman, qui était l'organisateur d'une de ces opérations baptisée Neptune et qui était organisée en 1964 par les services secrets tchécoslovaques. Alors, les services de ce pays ont fabriqué de faux documents nazis, imités de ceux que détenait le KGB, et ils les ont enfermés hermétiquement dans des caissons vieillis pour leur donner l'apparence copie. Puis, en pleine nuit, des plongeurs les ont immergés dans un lac en Bohême. Quelques jours plus tard, une équipe de télévision tchèque, mise sur la piste de ces pseudo-documents, filmait leur découverte et en révélait le contenu à l'opinion publique mondiale. Il s'agissait de compromettre le gouvernement d'Allemagne de l'Ouest en faisant croire que nombre de ses dirigeants d'alors étaient d'anciens nazis. Mais les Britanniques ont mené ainsi plusieurs opérations de ce type aux États-Unis pour convaincre des Américains au départ très réticents d'entrer en guerre à leur côté en Europe contre l'Allemagne nazie. Ainsi, le favori du Parti républicain pour affronter le démocrate Roosevelt était un isolationniste notoire. Un sondage publié fort opportunément à la veille de la Convention républicaine de 1940, révéla que la majorité des électeurs, favorables jusque-là à la neutralité, penchait dorénavant pour l'entrée en guerre. Et du coup, les délégués républicains décidèrent de miser sur un autre candidat, l'ancien démocrate Wendell Willkie, qui était favorable, lui, à l'entrée en guerre. Or, figurez-vous, ce sondage était un faux, inventé de toutes pièces sur place par une équipe britannique.
Oui, mais alors la grande différence, Brice, entre cette époque que vous décrivez et la nôtre aujourd'hui, c'est évidemment le numérique.
Eh oui, parce qu'il permet la combinaison inédite d'une distribution massive et d'un ciblage sophistiqué. Selon Philip Howard, professeur à Oxford et auteur d'un livre qui s'appelle « Lie Machines, How to Save Democracies from Troll Armies », à l'heure actuelle, 70 gouvernements au moins dans le monde disposent d'équipes de désinformation sur Internet. Le gouvernement chinois emploie à lui seul 2 millions de personnes pour submerger l'Internet de messages favorables et y contrer les dissidents. Le Vietnam a embauché récemment 10 000 étudiants dans le même but. Mais les véritables experts, ce sont les Russes. En Russie, même selon Howard, la moitié de la conversation sur Internet est générée par des bots, des robots ou encore lie machines. Ces machines à mensonges ont été programmées à tenir des discours cohérents destinés à des publics précis. Le désormais fameux Internet Research Agency de Saint-Pétersbourg, IRA, a pris sur ses rivaux une avance considérable en mettant à profit l'expérience accumulée en URSS par le KGB, expert, on le sait, en coups fourrés. On l'a vu lors de la campagne électorale de 2016 qui a permis l'élection de Donald Trump. Les agents de l'IRA étudient de près la carte des États-Unis afin de repérer l'actualité et les problèmes locaux, la manière dont les gens s'informent et leurs hobbies. À partir de ces données, ils créent des milliers de faux comptes extrêmement bien imités. Parce que chaque personnage est doté d'une personnalité, de centres d'intérêt particuliers, et bien sûr, il est chargé de recruter de nombreux amis et followers. Ensuite, ces comptes regroupent leurs suiveurs pour les embrigader dans des groupes d'intérêt basés sur ce qui divise le plus les Américains. La race, la religion, l'identité. On a aujourd'hui la preuve que des groupes comme Secured Borders, Blacktivist, United Muslims of America, Army of Jesus ou encore Heart of Texas étaient de pure création des services russes. Ensuite, l'IRA a usurpé l'identité de plusieurs centaines de citoyens américains pour acheter en leur nom des publicités politiques ciblées. Le Congrès a estimé que 126 millions d'Américains avaient visionné au moins une fois en 2016 du matériel de propagande ainsi généré par la Russie. Comme l'écrit Thomas Reed pour Poutine, il ne suffisait pas d'empêcher Hillary Clinton d'accéder à la Maison-Blanche, il fallait surtout miner la crédibilité des institutions démocratiques américaines. L'autocrate n'ignore pas que les démocraties libérales qu'il combat reposent non seulement sur la cohésion des sociétés, mais sur la confiance que leurs citoyens accordent aux autorités et aux institutions de leur pays. D'où des attaques visant à la fois à polariser le débat public et à miner cette crédibilité en s'attaquant aux responsables politiques, à la science, aux journalistes, aux administrations, aux policiers et aux juges. Dans l'avenir, l'intelligence artificielle va rendre de plus en plus facile nos conversations avec des chatbots, des robots formés pour s'entretenir avec des utilisateurs réels sur les réseaux sociaux. On saura peut-être un jour quel rôle la cyberguerre et les mesures actives ont pu jouer dans les élections qui viennent d'avoir lieu aux États-Unis. Les cyniques vous diront que, puisque la Chine est intervenue pour Joe Biden et la Russie en faveur de Donald Trump, cela a sans doute créé un certain équilibre. Mais les pessimistes, eux, s'inquiéteront de la fragilité de nos démocraties dont les opinions publiques sont devenues si vulnérables à la manipulation.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.